Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Soccer Spot. Soccer Spot.
Y'a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit tu viens jouer à l'Université de Montréal, you're gonna compete with the best, against the best, tous les jours.
Gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So, I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Universitaire en action.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue à Universitaire en action tous les dimanches matins, 9h, 10h sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Et bien sûr, également en diffusion sur les ondes de CFAC, le 89,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke en Estrie. Wissem Bensta avec vous pour la prochaine heure et cette semaine, comme à l'habitude, eh bien, nous avons du contenu sportif et nous avons bien entendu nos nouveautés francophones de la semaine. Cette semaine, on parle avec la première présidente féminine d'une équipe sportive du côté de la métropole montréalaise. On parle bien sûr de Annie Larouche, la présidente de l'Alliance de Montréal. L'Alliance de Montréal, c'est bien entendu l'équipe qui fait partie de la Ligue élite canadienne de basketball qui joue à Montréal, à l'Auditorium de Verdun. On a réalisé une entrevue avec elle. Ça va durer environ une vingtaine de minutes et on va lui parler. Elle a beaucoup de choses intéressantes à nous raconter. Également, il faut le rappeler, là, la saison de la CBL, ça commence dans les prochains mois, dès le mois prochain, en fait, pas le mois prochain, mais au mois de mai, camp d'entraînement, journée média. Donc, bien sûr, CSM et CFAC seront présents pour vous offrir le contenu. On est aussi en train de travailler sur un nouveau logo pour l'émission, sur un nouveau nom pour l'émission, tant Sherbrooke que du côté de Montréal, la plus grande ville québécoise, bien entendu, en termes de population. Également, à l'émission cette semaine, eh bien, on va parler un tout petit peu de soccer européen. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a des choses qui se passent. Il y a eu beaucoup de matchs internationaux, notamment l'Autriche qui a battu la Turquie par la marque de 6 buts à 1. Également, la France qui a battu le Chili 3-2 et qui a perdu contre l'Allemagne 2-0. Et bien entendu, ça chiale énormément, ça se plaint, comme quoi Mbappé a fait un mauvais match, comme quoi on entend des choses aberrantes, comme quoi Giroud est maintenant un joueur technique, il est plus technique que Marcus Thuram, donc c'est du grand n'importe quoi. On va parler un peu des matchs internationaux, pas nécessairement de ça, là, mais beaucoup de choses qui se racontent, qui ne sont pas toujours censées, bien entendu. Et puis, bon, on a les groupes qui se sont terminés pour l'Euro 2024. On le sait, la Pologne s'est qualifiée au tir au but contre le Pays de Galles. L'Ukraine a éliminé l'Islande. Et bien entendu, la surprise, la Géorgie, pays qui fait les qualifications en Europe, qui est limite là, continent européen, asiatique, mais bref, ils font partie de l'UEFA pour participer au tournoi de soccer internationaux. Ils se sont qualifiés, ils ont battu la Grèce au tir au but. C'est la première fois que la Géorgie se qualifie pour un tournoi majeur avec la FIFA de son histoire. Et qui est l'entraîneur de la Géorgie? Un certain dénommé Willy Sagnol, qui bien sûr était là en finale de la Coupe du Monde 2006 avec la France. Donc l'ancien joueur du Bayern Munich qui est déjà entré dans la légende avec le football en Géorgie. Puis également on va parler de d'autres choses. Bon, le Canada, on peut déjà l'annoncer tout de suite, s'est qualifié pour la Copa América. On va vous donner les groupes de la Copa América. Cette Copa América d'ailleurs qui va se jouer du côté des États-Unis, puisqu'on le sait maintenant, les États-Unis, depuis l'arrivée de Messi, depuis plusieurs années d'ailleurs, il y a énormément de tournois qui se jouent là-bas. On le sait, la Gold Cup se joue toujours aux États-Unis. Et cette année, bien, c'est la Copa América qui va se jouer là-bas du 20 juin au 14 juillet dans 14 villes aux États-Unis, bien sûr, pas au Canada, malheureusement. On va vous nommer les villes, donc Arlington au Texas, dans le stade, bien sûr, des Cowboys de Dallas, si je ne m'abuse, avec 80 000 spectateurs. Atlanta, Austin, Houston, East Rutherford, New Jersey, ça c'est bien sûr pour New York City. Charlotte, Inglewood en Californie, Santa Clara en Californie, Glendale en Arizona, Kansas City, au Kansas, Kansas City au Missouri. Donc, il y a une ville au Kansas, il y a une ville au Missouri. C'est intéressant, c'est pas du tout le même stade. Le Kansas City, Kansas, c'est 18 000 places. Kansas City, Missouri, c'est 76 416 places. Las Vegas au Nevada, Miami, Orlando et c'est pas mal ça en fait. Donc, voilà, ce sont les villes qui vont recevoir la Copa América. Et pour les groupes, on va vous les donner tout de suite parce que le Canada va faire partie de cette compétition-là. Ils ont battu la Trinidad et Tobago la semaine dernière pour pouvoir aller décrocher le biais pour une compétition très importante, là, puisqu'on le sait, le Canada a connu quand même des bonnes qualifications pour la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, ça va moins bien été, mais malgré ça, ils étaient dans un groupe où est-ce que c'était extrêmement relevé. On le rappelle, là, le groupe du Canada à la Coupe du Monde, c'était Belgique, Croatie, Maroc. Et deux des quatre demi-finalistes de la Coupe du Monde se trouvaient dans ce groupe-là avec le Maroc et la Croatie. Puis la Belgique, évidemment, qui est une équipe très forte, était également dans ce groupe-là. Donc c'était le pire des groupes possibles pour le Canada. Donc voilà, la Copa América, eh bien, il y aura en tout un total de quatre groupes avec quatre équipes chaque. On va vous les nommer. Le groupe A, l'Argentine, le champion titre, le Pérou, le Chili et le Canada. Donc c'est quand même un match, ça va être très 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 difficile. Puis on sait, il y a également une rivalité entre le Pérou et le Chili, entre l'Argentine puis le Chili également. Là, ça va être des matchs quand même avec une très grande intensité. Ça commence le 20 juin pour le Canada qui va jouer contre l'Argentine du côté d'Atlanta. Ensuite, le 25 juin, il se jouera contre le Pérou à Kansas City. Et il terminera la phase de groupe avec, bien entendu, le 29 juin contre le Chili qui va se jouer du côté d'Orlando en Floride. Donc, le 20 juin contre l'Argentine, le 25 juin contre le Pérou et le 29 juin contre le Chili. Et il faut le rappeler, il y a quatre groupes. Donc, bien entendu, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés. Le groupe B, ce sera le Mexique, l'Équateur, le Venezuela et la Jamaïque. C'est un groupe quand même plus abordable. On sait, là, le Mexique, dès qu'il joue un match aux États-Unis, les stades sont pleins. Et puis cette année, bien entendu, comme à chaque fois, eh bien, ils vont jouer dans le sud des États-Unis. Ils vont jouer à Houston, ils vont jouer en Californie, puis ils vont jouer en Arizona, leur dernier match contre l'Équateur. Donc, les stades seront pleins côté Mexique pour supporter El Tri. Le groupe C, quatre équipes encore une fois, les États-Unis d'Amérique, Uruguay, Panama et la Bolivie. Donc, un groupe encore un peu plus abordable. Le groupe du Canada, c'est vraiment le plus compliqué, si vous me demandez, selon moi, là, surtout par rapport aux trois premiers groupes qu'on a vus. Les États-Unis vont jouer leur match à domicile au Texas, bien entendu, à Atlanta et puis à Kansas City. Et le groupe D, le dernier groupe de la Copa América, ce sera le Brésil, la Colombie, le Paraguay et le Costa Rica. La finale, bien entendu, se jouera le 14 juillet à 8h et ce sera du côté de Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Donc voilà, on commence l'émission cette semaine avec un peu d'actualité footballistique. On le sait, Universitaire en Action, on priorise bien sûr le sport universitaire, mais là on le sait, le sport universitaire est fini ou est presque fini. Là, il reste quelques petites compétitions à faire, les honneurs, les équipes de la saison, tout ça. Mais c'est essentiellement terminé. Basketball, hockey, football depuis longtemps, volleyball, les championnats canadiens se sont déjà joués. Puis en deuxième partie d'émission, on va faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le monde universitaire sportif au Canada ces dernières années. Et il faut le mentionner également, qui dit sport universitaire dit March Madness. Donc, la folie du mois de mars aux États-Unis avec les championnats de basketball de la NCAA. Et parlant de soccer, on va revenir à nos moutons. On parlait au début des qualifications pour l'Euro, là, avec notamment la Pologne qui s'est qualifiée en ne pratiquant pas, évidemment, le plus beau jeu de tous les temps. Là, mais ça fait un petit bout que c'est comme ça avec la Pologne et pas juste eux, d'autres équipes également. Il y a les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui va se passer chez nous au Canada, ou du moins juste à Toronto et à Vancouver, parce que Montréal, bien sûr, on n'a pas fait les efforts pour l'avoir. Bon, à tort ou à raison, moi, j'aurais aimé ça, avoir des matchs de Coupe du Monde à Montréal. Ça va peut-être être la seule fois dans l'histoire qu'on aurait pu les avoir. Et bon, on n'a pas été en mesure d'avoir même pas un petit match du côté de Montréal dans la belle province, mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui se passent du côté de l'Asie. On a 9 groupes avec 4 équipes dans chaque groupe. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour. Et le troisième tour, ce sera 3 groupes de 6 équipes. Et dans ces 3 groupes-là, les 2 premières équipes de chaque groupe vont se qualifier. Et 3e et 4e vont faire des matchs de barrage. Donc, on va commencer avec le groupe A, Qatar, Inde, Afghanistan, Koweït. Le Qatar est qualifié avec 12 points. Et pour la deuxième place, eh bien, ça va jouer entre l'Inde, l'Afghanistan et le Koweït. Bien entendu, là, vous le savez, en Asie, il y a énormément d'équipes. Donc, la très grande majorité ne pourront pas se qualifier. Mais il faut le rappeler, c'est une Coupe du Monde là, en 2026 qui va être augmentée. Donc, il va y avoir plus de place pour les équipes pour pouvoir y participer. Groupe B, Japon premier avec 9 points. Deuxième, Syrie avec 7 points. Corée du Nord troisième et Myanmar quatrième avec 3 points et 1 point respectivement. Ça va être très difficile pour la Corée du Nord et le Myanmar. Groupe C, Corée du Sud 10 points. Chine deuxième 7 points. Thaïlande 4 points, Singapour 1 point. Donc logiquement, la Corée du Sud et la Chine sont en bonne position. Le groupe D, c'est quand même un groupe intéressant. Kyrgyzstan 9 points, deuxième Oman 9 points, troisième Malaisie 6 points et Chinese Taipei, désolé, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est 0 point tout simplement. Là, ça va très mal pour Chinese Taipei. En fait, c'est 3-0, 1-0, 2-0. Donc, ils ne marquent pas de but. Ils ont marqué un but contre leur Kyrgyzstan à la 87e minute avec Wu Yen-Shu. Et ça a été leur seul but qu'ils ont marqué. Ils en ont encaissé 11. Le groupe E, Iran premier avec 10 points. Deuxième, Ouzbékistan 10 points. Troisième, quatrième, Turkménistan et Hong Kong. Donc ça, c'est malheureusement bye-bye. Ils ne pourront pas se qualifier pour le Turkménistan et Hong Kong pour la Coupe du Monde. Il va falloir attendre peut-être 2030 pour eux. Le groupe F, l'Irak premier avec 12 points. L'Indonésie deuxième avec 7 points. Troisième, Vietnam 3 points. Et les Philippines 1 point. Les Philippines qui viennent de recevoir, d'ailleurs d'accueillir le championnat, la Coupe du Monde de basketball il y a quelques temps de ça. Mais malheureusement au soccer, ils ne pourront se qualifier pour la Coupe du Monde. Et le groupe G, Arabie Saoudite 10 points. Deuxième, Jordanie 7 points. Troisième, Tadjikistan 5 points. Et quatrième, Pakistan 0 points. Un but marqué, 20 buts encaissés pour un total de moins 19. Fait à noter, là, nos amis de l'Arabie Saoudite ont fait match nul avec le Tadjikistan 1-1. Ils se sont fait surprendre. Donc ça, c'était la grosse surprise. Il faut le rappeler que l'Arabie Saoudite est entraînée par Roberto Mancini, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale d'Italie, qui a laissé l'équipe nationale d'Italie pour aller entraîner en Arabie Saoudite avec un contrat très lucratif, bien entendu. Le groupe H, les Émirats Arabes Unis, 12 points. Premier, deuxième, Bahreïn avec 9, Yémen troisième avec 3 et Népal quatrième avec un gros total de 0 points. 0 but marqué, 14 buts encaissés, moins 14, ce qui est quand même mieux que le moins 19 du Pakistan. Le moins 19 là, du Pakistan qui a date dans les groupes qui ont été nommés, c'est le pire puisque les autres c'est moins 10, moins 17, mais moins 19 là, c'est beaucoup et moins 19 en pas beaucoup de matchs. Là. C'est ça qui est quand même intéressant à noter en 4 matchs. Ça veut dire qu'en 4 matchs, le Pakistan a encaissé 20 buts. Ça, c'est 5 buts par match, là. C'est-à-dire que le Canadien de Montréal n'encaisse pas autant, bien entendu. Et le groupe I, le dernier groupe, eh bien, l'Australie, première avec 12 points. Deuxième, Palestine avec 7. Troisième, le Liban avec 2 points. Quatrième, le Bangladesh avec 1 point. Bangladesh, eux, qui sont à moins 13 points. Meilleur buteur des qualifications à l'heure actuelle pour les qualifications de la Coupe du Monde côté asiatique, c'est El Moez Ali du Qatar. Et sinon, notre ami Wu Lei qui joue à l'Espagnol en Espagne, qui en est à 5 buts. Et maintenant, l'ami Wu Lei, il joue avec Shanghai Port. Il a quand même marqué 31 buts en 44 matchs. Là, c'est quand même un attaquant très prestigieux côté chinois. Puis c'est pas sarcastique, là, il est bon. Mais malheureusement, là, la Chine, ils ont de la difficulté. Ils se sont qualifiés une fois à la Coupe du Monde, c'était en 2002. Ils ont perdu leurs 3 matchs. Mais les deux pays les plus peuplés du monde, là, la Chine et l'Inde, qui malheureusement ont beaucoup de difficultés pour se qualifier pour une Coupe du Monde, c'est pas facile. Quoique l'Inde, à l'heure actuelle, dans le groupe A, ils sont deuxième avec 4 points. L'Afghanistan est troisième avec 4 points et le Koweït quatrième avec 3 points. Donc, il va avoir une place à chercher là, pour le deuxième tour entre l'Inde, l'Afghanistan et le Koweït. Sauf que l'Inde termine ses qualifications contre le Qatar, qui est évidemment le pire adversaire pour l'Inde, puisque ça va être difficile. Et ça se passe du côté du Qatar. Et comme vous le savez, en Asie, des fois, il y a des endroits où est-ce que géopolitiquement, c'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, la Syrie, ils jouent leur match en Arabie Saoudite pour des raisons, bien sûr, de sécurité, là, pour avoir un climat quand même assez serein. Il y a d'autres équipes également qui ne jouent pas dans leur pays. Je crois que l'Irak également aussi ne joue pas en Irak. Ils jouent aux Émirats Arabes Unis. Donc, les matchs sont délocalisés. Et donc, voilà. La Jordanie, eux, par contre, ils jouent chez eux, puis c'est bien correct comme ça, parce qu'on veut des matchs quand même locaux. Et puis sinon, je crois qu'il y en a un autre. Oui, et la Palestine, eux, ils jouent bien sûr aux Émirats Arabes Unis, puisque vous le savez, avec le contexte, là, avec ce qui se passe. Et puis, ils jouent également au Koweït également. Donc, ils se promènent un peu, là, les Palestiniens. Ils vont jouer contre le Liban au Qatar également le 6 juin. Donc voilà, s'il y a des gens qui les accueillent puis qui font en sorte qu'ils puissent recevoir des matchs chez eux au lieu de... Puisqu'on le sait, le contexte social est quand même difficile, le contexte sécuritaire à l'heure actuelle là-bas. Et il y a d'autres pays qui font ça également. L'Ukraine aussi, ils jouent leurs matchs des fois en Pologne, des fois en Roumanie, etc. Donc voilà, le monde s'entraide et se serre les coudes, du moins pour offrir un stade de soccer pour pouvoir... laissez jouer une équipe qui en a de besoin. Donc voilà, sur ce, on s'en va en musique et on revient avec la présidente de l'Alliance de Montréal, j'ai nommé Annie Larouche. C'était la nouveauté francophone de la semaine sur les ondes de CSM et de CFAQ. 20 000 heures de solitude de Peter Peter. Donc nous sommes avec Annie Larouche, la présidente de l'Alliance de Montréal. Comment ça va aujourd'hui, Annie?
Ça va très bien, merci.
Excellent. Donc, on va commencer tout simplement par une petite présentation. On te remercie pour cette entrevue parce qu'on sait que tu es très occupé. C'est la pré-saison d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc, on va faire ça quand même rapidement pour toi.
Ça me fait plaisir d'être là.
Excellent. Donc, tout d'abord, peux-tu te présenter pour nos auditeurs? Donc, tu viens d'où? Ta passion pour les sports? Ton école au secondaire, c'était quoi? Etc., etc. Ouais.
Ben, je suis une fille de Montréal, donc née, grandie, j'habite toujours à Montréal, c'est chez nous. J'ai grandi dans le quartier Huntsic. Au secondaire, j'allais à l'école Sophie Barra, j'ai fait mon cégep au cégep Huntsic. Je suis vraiment restée dans mon hood, là, dans mon patelin. Mon Dieu, que en fait, quand j'étais au secondaire, j'avais aucune idée vers quel... c'est le temps de faire un choix de carrière. J'avais aucune idée vers quel domaine me diriger. Et puis, à ce moment-là, j'avais fait un test avec un orienteur qui m'avait dit « Tu as vraiment des capacités organisationnelles, structure, planification. Tu serais une excellente secrétaire. » J'ai dit « Ben, c'est vraiment gentil, mais je pensais m'en aller en criminologie. » Et puis, finalement, il m'a dit « Non, non, t'es trop sensible, fais pas ça. » Il m'a suggéré d'aller faire un DEC en technique juridique et la suite est que j'ai travaillé au Palais de justice de Montréal en chambre criminelle et pénale pendant 8 ans. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours été impliquée dans le monde du sport. Donc, pendant que j'étais au Palais, j'ai travaillé avec la Machine de Montréal, les Dragons, la première équipe de basketball qu'il y avait eu à l'Auditorium de Verdun, les Roadrunners et finalement les Alouettes. Les Roadrunners qui étaient l'équipe de hockey et de roller hockey qui jouait à l'ancien forum et les Alouettes. Et finalement, les Alouettes m'ont offert un poste à temps plein. J'ai donc décidé de quitter la fonction publique, le palais de justice pour me joindre aux Alouettes à temps plein. Le reste de l'histoire, on le sait, j'ai passé 25 ans aux Alouettes où j'ai gravi les échelons. Travaillé dans plusieurs départements. Je suis allée chercher des formations parce qu'on se souvient que là, je me retrouve dans le monde du sport, qui était mon monde parallèle, mais j'avais étudié en droit. Donc, jusqu'à encore aujourd'hui, je suis constamment des cours pour me mettre à jour, de la formation, marketing, gestion des médias, les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé en 96, il n'y avait pas de réseaux sociaux
Non.
non plus. Donc, tu sais, je trouve ça important de toujours se garder à jour au fait pour pouvoir toujours rester au sommet et se repousser les limites.
Excellent, très bonne présentation, merci beaucoup.
Merci.
C'est le fun d'avoir.
C'était la version courte, imagine.
Oui, non, c'est ça. On l'avait déjà fait l'année dernière, mais je pense que c'était pas aussi. Tu n'avais pas aussi expliqué, là, tu as vraiment bien expliqué.
Merci.
Ça fait du bien d'avoir, tu sais, des gens qui sont nés à Montréal, qui ont grandi à Montréal, puis qui s'impliquent à Montréal. Moi, je trouve ça génial.
Ouais.
Je viens aussi, je suis aussi né à Montréal, mais j'ai toujours habité sur la rive sud, là, mais bon.
Oui,
C'est un autre débat,
c'est pas
mais
loin,
donc
c'est pas loin.
non, on est à côté,
Une
on est à côté.
petite distance de nage.
Ouais, c'est ça. Le pont. Donc, on voudrait maintenant commencer par ton rôle avec l'Alliance de Montréal exactement. C'est quoi? Quel est le rôle? Tu es d'ailleurs la première femme présidente d'une équipe sportive à Montréal.
Ouais.
Et ton rôle comme présidente de l'Alliance de Montréal, c'est quoi exactement?
En fait, j'aime dire que je suis le chef d'orchestre de cette équipe-là. Donc, évidemment, j'ai un peu la gestion de l'équipe au complet, que ce soit toute l'équipe administrative avec les partenariats, le marketing, les communications, la billetterie, tout le volet opérationnel, mais également, évidemment, les relations avec la ville, puisqu'on est locataire à l'Auditorium de Verdun, et puis ressources humaines, finances, donc un peu de tout. Et du côté des opérations basket, ben à ce moment-là, je travaille avec l'équipe en place, mon grand partner Joël Anthony, qui est notre DG, pour s'assurer là, de mettre sur pied une équipe compétitive à chaque année. Donc, c'est un peu mon rôle de diriger toute cette belle équipe-là. Je suis vraiment privilégiée. J'ai des employés qui sont engagés, motivés, hyper compétent, hyper brillant. Donc, on travaille toutes les planifications stratégiques ensemble. Puis ensuite, ben, il nous reste plus juste à déployer tout ça. Puis on a bien hâte à la saison qui commence sous peu.
Excellent. Puis, juste question parenthèse. En fait, ton employeur, est-ce que c'est la CEBL ou c'est l'Alliance de Montréal?
C'est la CBL, c'est la Ligue, en
CBL.
fait. Oui,
La
exactement.
Ligue.
Donc, je relève directement de la Ligue. Et puis, évidemment, ben, tu sais, ma responsabilité ici, c'est de faire rayonner cette équipe-là, de la faire grandir, d'en faire une équipe compétitive et pérenne qui va rester, on est déjà à notre troisième saison. C'est la première équipe de basketball professionnel à Montréal qui entame sa troisième saison. Donc, pour nous, c'est déjà un beau succès. Et évidemment, cet été, du 9 au 11 août, ce sera le week-end de championnat à Montréal. Donc, on n'a pas chômé pendant la saison morte.
Non, excellent. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais en
Ah,
parler.
Colin,
Mais
je
non, c'est bon.
m'excuse.
Puis, bon, Joël Anthony, là, qui est en fait le directeur sportif de l'équipe,
Ouais.
est-ce que c'est toi? Ben, il était déjà là avant que tu sois présidente, mais mettons que ça serait un autre. Est-ce que c'est toi qui as la responsabilité d'en engager un ou c'est la Ligue qui fait ça?
Non, c'est moi, c'est ma responsabilité. Puis quand j'ai rencontré Joël, il est impliqué avec les Honey Badgers à Hamilton. Alors, il est un peu personnel de joueur là-bas. C'est un peu sa transition là, entre l'athlète professionnel, parce qu'on se souvient que Joël a joué dans la
Oui.
NBA avec Miami, entre autres, où il a gagné deux championnats avec LeBron James. Mais c'est un peu sa transition. Et quand j'ai rencontré Joël savait qu'il voulait être impliqué avec l'équipe de Montréal, mais il ne savait pas de quelle façon. Alors, la première fois que je l'ai rencontré, ce n'était pas fait. Donc, mais tout de suite, on a connecté. Joël vient de Ville-Saint-Laurent
Oui.
et c'était super important pour lui de redonner à la communauté qui l'a aidé à se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tout de suite, dès notre première conversation, on a vraiment connecté. Les valeurs, la vision, où est-ce qu'on voulait amener ça. Ça a été un match parfait. Après un petit bout de temps de réflexion puis de discussion ensemble, Joël a dit, je vais être le DG de cette équipe-là à mon plus grand bonheur. Donc,
Oui.
voilà.
Ben, génial. Puis cette année, ben, il y aura du pain sur la planche, Monsieur
Oui.
Anthony, puisqu'on va parler tantôt là, avec l'alignement. Et
Oui.
cette année, tes objectifs avec l'Alliance de Montréal, tant sportifs que social, culturel ou autre, est-ce que tu en as que tu voudrais nommer, présenter à nos auditeurs ici?
Bien, c'est sûr qu'à chaque année, on veut élever l'expérience client. Les gens nous en parlent après chaque visite, que tu sois un grand fan de basket ou non, tu as toujours du bon temps. Donc, on le sait, le basketball est très, tu sais, contrairement à d'autres sports où ça peut s'étirer un peu. Nous, du moment que le match commence, c'est deux heures rythmées. Mais avec tout ça, tout ce qui entoure, toute l'expérience client, on veut bonifier ça année après année. Et on a travaillé fort là-dessus pendant la saison morte. Évidemment, on veut une équipe compétitive sur le terrain. On veut gagner. Donc, on met tout en œuvre. Oui, c'est d'aller chercher les joueurs, mais c'est de revoir l'horaire de pratique, de parler avec toute l'équipe médicale. L'année dernière, on se souviendra que on a super bien démarré la saison, mais on a eu blessure après blessure. Vraiment, là, c'était de la malchance l'année dernière. On a vraiment été malchanceux, puis c'est pas une excuse, c'est la réalité. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est d'observer tous ces petits éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour performer davantage? Et puis, évidemment, c'est de se faire connaître. On a un beau cercle de partisans, mais on veut l'élargir encore. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Alliance, et pour nous, c'est important de faire connaître l'Alliance au Grand Québec au complet. Donc, ça aussi, on a mis des choses en œuvre qu'on va pouvoir voir bientôt.
Excellent.
Pour faire rayonner l'équipe.
Oui, ben c'est ça, ça commence très bientôt. Puis vous avez sur votre site internet, là, tu l'as mentionné, il y a trois joueurs à l'heure actuelle, Alain Louis, Elijah Ifedje, puis Maxime Boursicot qui sont dans l'alignement sur le site de l'Alliance. C'est quand environ, à quel moment est-ce qu'on va savoir en fait l'équipe qui sera dans l'alignement de cette saison?
Bien, les joueurs, les signatures de joueurs se font au fur et à mesure. Il y a certaines signatures qui sont complétées, par contre, par souci de respect, parce qu'on sait que les joueurs jouent avec d'autres équipes pendant l'hiver. Donc, on a certains joueurs qui sont en Europe présentement et par souci de respect envers l'équipe pour qui ils jouent présentement, on retarde un peu l'annonce. Donc, on n'en a pas juste trois, là, techniquement. On en a un peu plus que ça. Mais les annonces s'en viennent tout au long du mois d'avril. Là, on va déployer ça avec grand bonheur.
Excellent. Puis, parlant de grand bonheur, est-ce que Derek Alston, l'homme que tout le monde a aimé l'année dernière, même s'il n'y a pas eu de play-off, est-ce qu'il sera de retour? On ne le sait pas.
Ça va faire partie des annonces du mois d'avril.
OK, parfait. Donc on
va se garde des secrets.
On va être patient. Ben oui, c'est ça. On essaie de grappiller un peu d'informations, mais on va attendre comme tout le monde ici à CSM et à CFAC. Comment vont les billets de saison à date? Est-ce que ça se vend quand même pas mal?
Ça se vend super bien. On a surpassé le nombre de l'année dernière. Donc, tu sais, année après année, on élève un peu. On est content. Les gens, ce que ça nous dit, c'est que les gens aiment leur expérience et que ceux qui viennent une première fois à un match ou deux ou trois pendant la saison, ben ils aiment assez ça pour maintenant devenir détenteurs de billets de saison puis passer l'été avec nous. Donc, on est super content de ça. On est bien fiers de ça.
Excellent. Puis je ne sais pas si tu connais la réponse, j'imagine que oui, si tu ne la connais pas, je m'excuse de la question. C'est quoi le coût environ d'un billet individuel moyen et un billet de saison? Est-ce que tu as l'information pour...
Oui, bien en fait, c'est nos billets sont entre 20 $ et 105 $ à la pièce, à l'unité. Donc, les billets individuels sont entre 20 et 105, là, dépendamment des catégories. Évidemment, un billet de saison, on a 25% de rabais sur la saison. Alors, ça fait quand même une bonne différence. Alors là, évidemment, le coût dépend de la section, de la catégorie qui a été choisie, mais il y a un 25% de rabais qui est appliqué à l'achat de billets de saison.
OK, excellent. Puis, quand tu dis les billets à 105 $, est-ce que les billets à 105 $, ce sont ceux qui sont presque sur le court?
Exactement, c'est les courtside et c'est les tables aussi. On a des tables qui sont derrière les bancs courtside, donc c'est quand même très abordable. 105 $ pour du courtside, c'est quand même noble.
Ben oui, c'est ça. Ça coûte plus cher que ça pour être en haut complètement dans la NBA, j'imagine.
Oui, je le confirme.
Exact.
Ouais.
OK, puis maintenant, il y a une grosse annonce qui s'est faite l'été dernier. Le championnat Weekend Championship à Montréal, le Weekend Championship qu'on appelle en anglais, à
Ouais.
Montréal du 9 août au 11 août. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Oh, c'est une belle reconnaissance parce que on doit évidemment appliquer pour recevoir les championnats chez nous. Donc, c'est une belle marque de confiance de la Ligue qui croit en notre communauté, qui croit en notre ville, qui croit en notre équipe aussi pour mettre sur pied un championnat. C'est évidemment bon. Le championnat, ce que ça inclut, c'est les trois matchs, donc deux matchs le vendredi avec les finales de l'Est, finales de l'Ouest, et le championnat le dimanche avec les deux champions de division. Mais il y a aussi plein d'activités. Donc le samedi, il va y avoir au parc Arthur-Thérien directement. On va annoncer toutes les activités sous peu, mais toute la journée, il va y avoir des activités du 3 contre 3, un DJ battle, un match des célébrités. Mercredi, il y aura le gala des joueurs où les joueurs seront récompensés. Il y a plein de petites activités comme ça qui vont être faites tout au long de la semaine qui vont mener à ces trois matchs-là. Donc, très, très, très excitant tout ça. Des belles choses en vue.
Oui, puis est-ce que l'Alliance de Montréal, comme c'est l'équipe hôte, est-ce qu'ils sont garantis d'y participer d'une façon ou d'une autre?
Oui, on est garanti de participer au Final Four. Donc, on sera dans le match, évidemment, de finale de division Est. Et puis, donc, techniquement, on est à deux victoires du championnat, là.
Avant que la saison commence, c'est bien ça,
Avant que
c'est.
la saison commence.
OK. Oh, c'est mentionné, bien entendu, on en avait déjà parlé l'année dernière. Je pense que je l'avais posé la question en conférence de presse. Je t'avais posé la question en conférence de presse. L'auditorium de Verdun, c'est l'endroit indiqué pour cette finale-là. Est-ce qu'il y a possibilité que ça aille plus haut, Centre Bell, Place Bell, je pense pas, là, mais ou c'est non?
Pour le championnat, non, on veut vraiment rester à la maison. C'est chez nous.
Oui.
On veut que les gens s'y retrouvent. Il y a une raison pour laquelle les gens viennent nous voir. Ils aiment l'auditorium de Verdun, ils aiment l'ambiance là-bas. Et même si c'est un plus petit amphithéâtre qu'on pourrait retrouver dans d'autres villes, justement pour des matchs de championnat, pour nous, c'est important là, que ça nous représente bien. Puis on est content. Évidemment, il va y avoir du tourisme. Puis on est content de faire découvrir notre maison. L'auditorium de Verdun
Oui.
à tous, ouais.
Mais c'est ça, il y a aussi ces Verdun, et sur le bord de l'eau, il y a du stationnement, il y a la rue Wellington à côté, je crois, où est-ce qu'il y a beaucoup
Ouais.
de. Donc c'est
C'est
vivant
plein,
quand
c'est
même là.
magnifique. La rue Wellington, c'est une rue piétonnière avec plein de restaurants. Il y a beaucoup d'activités. Vraiment, là, c'est super beau ce qu'ils font.
Excellent. Puis deux petites questions. Qu'est-ce qui serait une saison réussie pour Madame Larouche cette année? Ça ressemblerait à quoi?
Réussi, pas parfaite, réussi, hein? C'est
Ben,
ouais.
réussie et parfaite, comme tu l'amènes,
Ben,
parfaite
la
aussi.
parfaite, c'est de finir avec le championnat chez
Oui.
nous, devant notre monde. Ça, c'est vraiment, ce serait la saison parfaite. Mais une saison réussie, c'est d'avoir que la foule soit au rendez-vous, de terminer un peu plus haut dans le classement. Ce serait déjà un beau progrès et juste de présenter un week-end de championnat à la hauteur de ce que Montréal peut faire. Donc, offrir un bon spectacle, une belle expérience pendant tout l'été, ce serait réussi.
Excellent. Puis, dernière petite question. Comment est-ce que les gens peuvent se procurer des billets pour aller supporter l'Alliance de Montréal?
alliancemontréal.ca. Donc, sur le site web, on peut cliquer directement. En ce moment, on a les billets de saison, évidemment, les flex, les groupes, et puis encore quelques semaines, puis on aura les billets individuels aussi. Mais il ne faut pas manquer ça. Ça part vite, d'autant plus que le championnat, les billets commencent à être une denrée rare. Donc, on a très hâte de revoir tout le monde à l'Auditorium de Verdun cet été.
Exactement, donc c'est ça, alliancemontréal.ca, en un mot, là, .ca. Donc, Annie Larouche, tu es une femme occupée. Merci beaucoup pour ton temps. Nos auditeurs vont adorer.
Merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir.
Merci et bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Revoir. toujours sur les ondes de CFAQ et de CSM. Bien entendu, on remercie beaucoup Annie Larouche pour son temps. Encore une quinzaine de minutes à l'émission ici, là, Universitaire en action et Soccer Sport sur les ondes de CSM et de CFAQ, avec nul autre que Wissam Bensta, votre animateur sportif ici pour ces merveilleuses radios universitaires. Et d'ailleurs, parlant de radio universitaire, on peut vous annoncer déjà qu'il y aura un changement de nom, bien entendu, dans les prochaines semaines concernant l'émission qui circule du côté de CFAQ et de CSM également. Elle aura le même nom puisqu'il y aura un contenu qui va merger entre les deux émissions et les deux radios. Donc, on vous tiendra au courant, mais on est en train de travailler sur un logo pour rendre ça plus intéressant, là, pour que vous puissiez, bien sûr, bien aimer ça. Donc, on va parler maintenant des championnats qui se sont passés. On va laisser tomber un peu le Québec. On va parler Canada. On va parler championnat canadien parce que vous le savez, chaque province a son championnat, ses championnats dans tous les sports confondus. Tu es champion de ta province. Puis également, chaque sport, eh bien, il y a un championnat canadien, tant masculin que féminin en général pour presque la totalité des sports. Et ça a commencé là, le 10 mars, on a eu droit déjà à des finales. On en a déjà parlé la semaine dernière à l'émission. L'Université Laval, le Rouge et Or, qui l'a emporté 77-71 contre Queen's University. C'était le premier titre, bien entendu, pour le Rouge et Or, et d'autant plus que ça se passait du côté de la capitale nationale à l'Université Laval. Donc, un titre canadien de champion canadien pour le Rouge et Or de l'Université Laval, qui honnêtement, au début de la saison, pas beaucoup de personnes auraient parié sur le Rouge et Or de l'Université Laval et ils l'ont fait chez les hommes. Niveau féminin, eh bien pour le basketball féminin, ça a été Carleton, l'équipe de l'Université d'Ottawa, bien entendu, en Ontario, qui l'a emporté 70-67 contre Saskatchewan. Et puis donc, c'est un titre, bien entendu, pour l'Université Carleton, qui est d'ailleurs très habitué très régulièrement de gagner les championnats nationaux canadiens. Je pense qu'ils en ont gagné environ là, à peu près 17 en 20 ans. Mais cette année, chez les hommes, ils ne l'ont pas fait. Mais par contre, chez les femmes, elles l'ont fait. Donc, félicitations à elles. Et sinon, on continue avec le 17 mars. Eh bien, ça, c'était quelques semaines de ça. Là, ça fait pas très longtemps. On s'en va bientôt en avril. Mais quand même, il y a eu de l'action le 17 mars. On va commencer par le championnat masculin de hockey canadien. Eh bien, c'est l'Université du Nouveau-Brunswick, les Reds, qui l'ont emporté par la marque de 4-0 contre l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, un autre titre pour les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils l'ont gagné l'année dernière et ils le regagnent cette année en hockey masculin. Niveau volleyball masculin, on le sait, l'équipe du Varéor de l'Université de Sherbrooke est très forte au volleyball masculin. L'année dernière, ils ont fait le doublé canadien et québécois. Eh bien, cette année, malheureusement, pour l'équipe de l'Estrie, eh bien, ils ont perdu 3-7-2 contre l'Université d'Alberta, qui a d'ailleurs un des plus beaux logos là, de tous les temps, avec une sorte de, je ne sais pas si c'est un castor ou un animal, puis à côté, c'est un panda qui est vert et blanc. Là. C'est vraiment un logo fantastique. Eh bien, pour l'Université d'Alberta, ils ont gagné 3-7-2, et donc champion canadien chez les hommes au volleyball. Maintenant, si on s'en va du côté des femmes hockey féminin, eh bien là, encore une fois, c'est notre équipe québécoise qui a gagné. Ça se passait du côté de Saskatoon, en Saskatchewan, et Concordia qui l'a emporté 3-1 contre, bien entendu, l'Université de Toronto. Et donc, c'est un titre de champion canadien pour Concordia, les Stingers, qui emportent un autre titre du championnat canadien. Elles qui font un très beau travail. Et pour la médaille de bronze, eh bien, les Carabins de l'Université de Montréal l'ont emporté 2-1 contre Waterloo pour aller chercher un peu de silverware, comme on dit en bon français. Donc, voilà. Et pour les femmes au volleyball, eh bien, il aurait pu avoir un doublé Université d'Alberta, tant chez les hommes que chez les femmes, puisque les hommes l'ont gagné, on l'a mentionné il y a quelques secondes. Eh bien, chez les femmes, l'Alberta a perdu 3-7-1 contre l'Université British Columbia, les Thunderbirds, par 3-7-1. Et donc, voilà, c'est les championnats canadiens qui se sont soldés dans le dernier mois. Et quand on regarde, là, quand on va sur le site du U-Sports, qui est l'équivalent de NCAA au Canada, le prochain match, la prochaine date officielle à l'heure actuelle pour un match sportif, probablement que ça va être avant, toujours des matchs de soccer qui sont un peu plus tôt, eh bien, c'est le 23 août 2024. Et c'est le Varéor de Sherbrooke qui se déplacera du côté des Carabins Universitaires de Montréal. Donc, le sport universitaire va prendre une pause, une très longue et grande pause les prochains mois. On le sait, ça rime, sport universitaire, ça rime beaucoup avec horaire de session. Donc, session d'automne, session de printemps. L'été, il n'y a généralement pas de session, là, sauf pour quelques cours d'été. Et donc, il y aura une longue pause. Maintenant, si on parle LHJMQ, on va vous parler des séries, la Ligue de hockey junior des Maritimes et du Québec. Je crois que c'est comme ça qu'elle a été renommée. On l'appelle aussi, c'est ça, le Québec Maritimes Junior Hockey League, parce que avant, il n'y avait pas le nom Maritime, puis il y a quand même beaucoup d'équipes qui viennent des Maritimes dans cette ligue-là. Donc, c'est les divisions des séries éliminatoires entre l'Est et l'Ouest. Donc, tout d'abord, ça commence Halifax, Acadie Bathurst, Moncton contre Chicoutimi, Cap-Breton contre Rimouski, Baie-Comeau contre Charlottetown. Et également, dans l'autre conférence, eh bien, on a Sherbrooke qui va recevoir l'Armada de Blainville-Bois-Briand. Ça, c'est un déplacement qui n'est pas très loin. Et puis, c'est deux équipes quand même que j'ai été voir dans leurs amphithéâtres respectifs. Et c'était quand même du bon niveau, une belle ambiance. Et puis là, l'Armada de Blainville-Boisbriand, cette année, ils connaissent quand même une meilleure saison, beaucoup meilleure que l'année dernière. Drummondville contre Saint John, ça va être un très long déplacement. Rouyn-Noranda contre Gatineau et Victoriaville contre Shawinigan. Donc, des séries 4 de 7. Et puis, le gagnant, bien sûr, des 4 premiers matchs, eh bien, sera qualifié pour la prochaine ronde. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine quand les séries éliminatoires seront, bien sûr, dans un état un peu plus avancé qu'à l'heure actuelle, où est-ce qu'il y a seulement un ou deux matchs de jouer, dépendamment des équipes. Et comme vous le savez, bien entendu, c'est une émission préenregistré ici sur les ondes de CSM et de CFAC. Donc, ce soir, on va faire une petite pause musicale et on revient après ceci pour le mot de la fin. De retour sur les ondes de CSM et de CFAC, Universitaire en action Soccer Sport, pour encore quelques semaines, puisque comme je l'ai dit auparavant, il y aura un nouveau titre d'émission dans les prochaines semaines, voire peut-être même la prochaine, en discussion pour faire le changement. Donc Wissam Bensta avec vous pour encore quelques minutes. C'était Amé Laouni avec sa chanson « Un fil ». Donc pas une nouveauté francophone, mais bien sûr une artiste bien locale, bien d'ici. Donc, on va terminer l'émission avec cette musique de fond, bien entendu, et surtout, on va vous mentionner les prix majeurs de cette année dans tous les sports qu'on a eus là au Québec, les équipes qui nous concernent. On commence avec le cheerleader. Donc, tout d'abord, l'entraîneur de l'année, Caroline Landry de l'Université de Montréal, la joueuse par excellence, Noémie Lebel des Carabins. Maintenant, on y va en basketball universitaire féminin. Léa Sophie Verret, athlète par excellence. Bien sûr, Eve Achampone de Bishops, c'est la recrue de l'année. Et l'entraîneur de l'année, c'est Guillaume Giroux du Rouge-Or de l'Université Laval. Basketball universitaire masculin, eh bien là, c'est Kevin Civil, l'athlète par excellence de l'année. Recrue de l'année, Willem Mwanza du Rouge-Or de l'Université Laval. Et l'entraîneur de l'année, eh bien, c'est Ratsko Popovic des Stingers de l'Université de Concordia. C'est quand même intéressant puisque, bon, ils ont fait un bon travail, c'est vrai, au RSEQ, mais ils ne l'ont pas donné à l'entraîneur du Rouge-Or qui, c'est vrai, a terminé quand même quatrième. Donc, a eu le dernier spot disponible pour les séries éliminatoires au Québec, mais qui ont remporté également le championnat canadien. Donc, c'est peut-être logique aussi de le donner à Ratsko Popovic de l'Université Concordia, les Stingers. On y va avec le hockey universitaire féminin. Eh bien, l'athlète par excellence, c'est Gabrielle Santerre de l'Université Bishops. Et c'est d'ailleurs la recrue de l'année également. C'est très rare que cela arrive, mais c'est l'athlète de l'année et c'est également la recrue de l'année. Et tant pour l'entraîneur de l'année, c'est Julie Chu des Stingers de l'Université Concordia. Et le prix leadership et engagement social, Amy Fecto des Stingers de l'Université Concordia. Hockey universitaire masculin, très peu d'équipes bien entendu au Québec. Là, on a McGill, puis on a les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis on a les Stingers, là, puis c'est à peu près tout. Le joueur de l'année par excellence, c'est Simon Lafrance des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et pour terminer le tout, on va y aller avec le volleyball universitaire, la première division. La tête par excellence, eh bien, c'est Olympe Desmet des Carabins de l'Université de Montréal. La recrue de l'année, Brittany Maranda du Varéor de l'Université de Sherbrooke, l'entraîneur de l'année, Olivier Trudel des Carabins de l'Université de Montréal, qui l'a gagné très souvent, là, ça fait très longtemps qu'il est là. Monsieur Trudel, il l'a gagné déjà en 2006-2007, ce trophée d'entraîneur de l'année, donc c'est quand même un entraîneur très connu dans le monde du RSEQ. Et le prix Leadership et Engagement Social, Brooke Angela Brown de l'Université McGill. Volleyball universitaire masculin cette fois-ci, eh bien c'est Jonathan Portelance, le joueur évidemment très bon et très connu dans le monde universitaire du Varéor de l'Université de Sherbrooke. La recrue de l'année, Lex Guimont de l'Université du Nouveau-Brunswick. L'entraîneur de l'année, encore une fois, pour une troisième année de suite, Mohamed El Fethi Abed, entraîneur d'origine tunisienne, si je ne me trompe pas. J'avais déjà fait une entrevue avec lui l'année dernière, en fin d'année, après le championnat québécois du RSEQ, un monsieur très gentil. Et le prix Leadership et Engagement Social, eh bien là, c'est Scott Mann de l'Université du Nouveau-Brunswick qui la gagne lui aussi pour une troisième année consécutive. Et le dernier sport concerné, eh bien c'est le volleyball universitaire féminin, mais la deuxième division. L'athlète par excellence, c'est Sophie Thériault de l'École de technologie supérieure. La recrue de l'année, Patricia Poirier de l'École de technologie supérieure. Et l'entraîneur de l'année, eh bien, c'est Marc Gaudreau de l'Université du Québec en Outaouais. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'équipes dans cette division-là, là, quand on parle de la deuxième division de volleyball universitaire féminin. Mais il y en a plus que l'année dernière, il y en avait trois. Là, cette année, on est encore... Il y en avait, pardon, trois, c'est la même chose l'année dernière. L'École de technologie supérieure, l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec à Rimouski. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On remercie encore une fois Annie Larouche, présidente de l'Alliance de Montréal, pour nous avoir donné de son temps. On se revoit la semaine prochaine. Joyeuse Pâques et soyez prudents. Au revoir.